Session de théologie par le Père Philippe à Saint-Jodard, le 30 août 1991.
Vous n'avez pas eu le temps de vous reposer? Puisque il y a eu le père Samuel qui a été là pour vous enfoncer encore un peu plus. Et c'est bien, c'est ce qu'il faut. C'est l'avantage des carrefours, vous voyez. Et des réponses, c'est que ça vous oblige d'aller plus loin. Alors, c'est pas une tentation, c'est une épreuve. Alors je voudrais terminer ce qui ne se termine pas. On a fait une ébauche. J'en ai tout à fait l'impression. Je voulais pas du reste faire plus. Faire une synthèse des tentations, ce serait absurde. Parce que par définition, ça va un peu dans tous les sens. Même les épreuves. Mais tout est commandé par l'amour divin. Et Dieu nous éprouve dans la mesure où il nous aime. Puisque tout le temps, toutes les épreuves, c'est pour qu'on aille plus loin dans l'amour. Abraham a été éprouvé comme père, patriarche, dans son fils bien-aimé. Il a dû l'offrir. Tout le peuple d'Israël, il ne faut jamais l'oublier, qui tenait la place du petit Isaac, a été en Isaac offert à Dieu. Et ça, je crois que c'est très, très grand. Même si de temps en temps, on a l'impression qu'il rue. Il a rué dans ses grands prêtres. Comme me disait quelqu'un peu de temps après la dernière guerre, qui était un Israélite, qui a la foi et qui a une grande intelligence, me disait: Israël est grand quand il souffre. Et quand il réussit, il est insupportable. C'est pas moi qui porte des jugements. Et j'ai trouvé ça assez juste. Vous voyez, Abraham, ça doit pas être toujours commode quand Abraham réussit avec Lot. Pas commode. Cependant, il aime beaucoup Lot. Sarah, pas commode quand ça réussit. Quand elle est dans la souffrance, elle est héroïque. Alors, comment Dieu éprouve le cœur d'Abraham pour qu'il aille jusqu'au bout de sa responsabilité? C'est une des choses les plus émouvantes au point de vue religieux quand on va prier auprès du lieu où Abraham a été enterré. Et on se retrouve avec des Juifs et des Arabes. Et on est lié là, dans l'alpha, le point de départ, enraciné. Vous aimez beaucoup Abraham. Du reste, on le dit dans le canon de la messe. Il faut l'aimer, notre père, un grand-père, mais c'est un père merveilleux qui reflète la paternité de Dieu. La purification d'Isaac, l'épreuve d'Isaac, quand il bénit, un père béni, et quand il bénit au nom de Dieu, Il bénit celui que Dieu veut et non pas celui qu'il veut. Il a béni le Benjamin parce que l'aîné avait perdu son droit d'aînesse. Le peuple d'Israël, c'est l'aîné. Et petit Jacob passe devant à cause de la mer. Tout ça est parlant pour nous, hein, si on veut comprendre un peu. Parce que nous sommes les Benjamins, nous. Hein. C'est vrai, comparativement au peuple d'Israël. Des choses qui m'ont beaucoup impressionné personnellement, c'était quand j'avais à Paris ce petit groupe œcuménique. Protestants, catholiques, c'était des protestants magnifiques, tous des fils de Bogner, tous, à peu près. Bogner était le pape protestant pendant la guerre, quelqu'un de très grand. J'ai eu la grâce de pouvoir le projet de très près. C'était quelqu'un de très grand, Bogner. Il était venu faire une conférence à Fribourg pendant la semaine de l'unité. Il avait 80. C'était très beau. Comme je le connaissais un tout petit peu, après la conférence, il y avait forcément un vin d'honneur pour arroser la semaine de l'unité. Et alors, on faisait passer le conférencier dehors, au mois de janvier à Fribourg. Vers le 25 janvier, il faisait froid. Alors je m'étais précipité sur lui. Et puis je lui ai dit, écoutez, ne sortez pas. Je vais vous indiquer la route à l'intérieur. J'étais en même temps très content de parler un petit peu avec lui. Mais c'était pour lui, je faisais, c'est pour ça. Alors il s'appuyait sur moi. Grand Bogner s'appuyait sur moi, puis on marchait dans le grand couloir éclairé. Alors il dit tout d'un coup, si quelqu'un nous regarde dans le fond du couloir, il dira Bogner s'appuie sur le père Philippe. C'était tout l'humour de Bogner, c'était magnifique. Et je me souviens qu'on avait fait venir Heisenberg. Et c'était la première fois où Heisenberg parlait devant des chrétiens, des catholiques et des protestants. Il était seul prêtre, il n'y avait pas de pasteur. J'étais à côté de lui, il se retournait tout le temps vers moi. Pour être sûr de ne pas dire de choses qui nous blessent. Il ne voulait pas nous blesser. Mais c'était très émouvant de voir le fils aîné, au point de vue de la parole. Et comme les protestants ont souvent un sens de la parole de Dieu très fort, nous, la parole est dépassé par l'Eucharistie, pas chez eux. Ils avaient une attitude très différente des catholiques par rapport aux fils aînés, ceux qui ont reçu la parole. Et j'ai compris à ce moment-là quelque chose qui m'a vraiment très fort touché. En face de Heisenberg, qui est quelqu'un de grand, le panier, grand dans son intelligence, grand dans sa foi. Et c'était beau parce que, comme c'était la première fois, il est venu plusieurs fois nous parler, qu'il parlait à des chrétiens, il y avait encore une sorte de timidité alors, il avait très fort ce sens d'être celui qui avait reçu la parole en premier lieu. Il lui a demandé une fois, mais comment vous nous regardez, nous chrétiens? On était 20, pas plus, hein, 25, 30, dans l'intimité. Il pouvait le dire, il n'a pas voulu le dire. Il a dit non, je vous ferai de la peine, je veux pas. Alors moi je l'ai pris à part, après. Je lui ai dit, mais vous comprenez bien, il m'a dit, les chrétiens, pour nous, c'est une secte. Ils sont déviés. Ils sont pas dans la ligne droite. Mais on doit beaucoup aux chrétiens. C'est que les chrétiens ont porté la parole de Dieu à toute la terre. N'aurions pas pu faire ça. C'était très beau, vous voyez, de voir ce dépassement qu'il y avait par rapport à la sélection du peuple d'Israël par le problème, par le mystère de la parole. Et je crois que ça, c'est une pierre d'attente. Parce que quand on va jusqu'au bout, vous voyez, la parole, elle nous est donnée d'une manière plénière dans le Christ. Elle n'allait pas jusque-là, puisque il y avait la déviation. C'est très important de comprendre la bénédiction et la pauvreté de la bénédiction. On ne peut bénir au nom de Dieu que dans une totale pauvreté de l'intelligence. Et c'est ce qu'il y a de plus difficile. Les pauvretés matérielles, c'est facile. Mais l'esprit de pauvreté, dans le développement de notre intelligence, c'est ce qu'il y a de plus grand. Isaac, oui, le fils père, et qui choisit et qui bénit celui qui passe devant celui qui aurait dû recevoir la bénédiction. Là aussi, théologiquement, c'est pas toujours commode à expliquer, mais c'est grand. Et enfin, Jacob, c'est la charité fraternelle. Sa purification, c'est par rapport à la charité fraternelle. Mais c'est très beau de voir ces trois grandes purifications. Après cela, il faudrait voir toutes les tentations et les fautes. J'en signale une qui est particulièrement grande. La tentation du peuple d'Israël d'avoir un roi. La tentation de la gloire. Et quelqu'un comme Heisenberg soulignait que c'est la tentation perpétuelle du peuple d'Israël. Et c'est pour ça qu'il dit, quand ils ont la gloire, ils sont insupportables. Et Dieu ne les supporte même plus. Et c'est vrai, ça a été une tentation terrible du peuple d'Israël. Ce passage très fort dans le livre des rois, où l'on voit le peuple d'Israël qui réclame à Dieu et qui réclame à Samuel, le grand prophète, d'avoir un roi pour être comme les autres peuples. Et c'est ce que Heisenberg soulignait. La tentation permanente d'Israël, c'est d'être comme les autres peuples et de ne pas accepter d'être le peuple choisi. Et de rester le peuple pauvre, parce que choisi par Dieu. D'être comme les autres peuples qui connaissent la gloire. D'avoir à la tête des armées un roi. Et c'est une tentation politique. Mais très grande. Parce que le peuple d'Israël, c'est toujours grand. C'est jamais petit. C'est ça peut-être qui nous déroute le plus. Quand il pêche grandement. Ça, on peut le dire. Et je crois que Dieu a voulu choisir le plus petit de tous les peuples pour qu'il puisse être grand par Dieu. Et là, très facilement, on confond la grandeur divine et la grandeur humaine, comme on confond la petitesse évangélique et l'enfantillage et la petitesse psychologique. Et le peuple d'Israël veut être grand, connaître la gloire. Et Samuel lui montre et lui rappelle que c'est une tentation de gloire. Alors, vous voyez, les grands prêtres disent, nous n'avons comme roi que César. Et ça a été l'argument qui a emporté tout. Pilate, devant ça, n'a plus rien dit. Que les grands prêtres disent, nous n'avons comme roi que César. Et c'est là où on voit très bien comment il y a là une terrible tentation, tentation d'Ève, l'orgueil. Cette tentation d'orgueil qui se traduit dans la jalousie. Et cette tentation de jalousie qui se traduit dans la gloire au plan politique. C'est intéressant de regarder l'aspect dialectique de la croissance des tentations. Parce qu'il y a une croissance dialectique dans les tentations. Là, la dialectique est vraie. Parce que c'est dans l'immanence. On refuse la transcendance quand on se laisse aller à la tentation. Alors on veut l'orgueil, la jalousie, la gloire, la tour de Babel. Une gloire politique telle qu'on a plus besoin de Dieu. Une gloire politique telle qu'au fond, le Messie, c'est le peuple d'Israël. Heisenberg me l'a dit. Pour nous, le Messie, c'est le peuple d'Israël. Le temple, le vrai temple, c'est le peuple d'Israël. C'est pour ça que le temple ne doit pas se reconstruire. C'est le peuple d'Israël. Vous voyez, cette manière d'intérioriser tout par rapport à Israël, c'est terrible comme manière d'interpréter le corps mystique. Je crois que c'est très très important ça. Eh bien, quand on était là en face de Heisenberg, j'ai compris que l'œcuménisme entre chrétiens ne peut se faire que quand on regarde Israël. Parce que là, nous retrouvons que notre foi est en Jésus, en premier lieu, et que l'Église, c'est à travers Jésus. Alors on n'est plus comme ceux qui veulent à tout prix tenir la vérité, on est relatif au Christ. On redevient relatif au Christ pour porter le frère aîné. Qu'on doit aimer, qu'on ne doit pas rejeter, mais qu'on doit aimer. Et que l'Église doit recevoir le vrai aîné. Alors c'est ici où il faudrait regardez attentivement la fin de la Genèse. Faut aimer beaucoup la Genèse, hein? Théologie fondamentale de la famille. On ne peut pas faire une théologie de famille sans regarder la Genèse. Théologie fondamentale du péché. Théologie fondamentale de la tentation. Et théologie fondamentale de l'histoire du peuple de Dieu. Dans la fin de la Genèse, je ne veux pas le voir avec vous parce que ça irait trop loin, mais je veux le signaler simplement pour ceux qui veulent poursuivre et continuer. C'est lorsque Joseph se trouve en face de ses frères. Les 11. Et qu'il veut sonder leur cœur pour savoir s'ils vont traiter le Benjamin comme ils ont traité Joseph. Lui-même. Un passage, je crois, le plus émouvant de toute l'écriture, dans l'ordre de la charité fraternelle et dans l'ordre du pardon. Et pour voir cela, l'astuce de Joseph, mettre dans le sac de blé du Benjamin toute la monnaie, tout l'argent qu'on avait donné. Proche de paix, et puis une coupe d'or, d'argent, mettre tout ça dans le sac du Benjamin, puis on les laisse partir, puis on les rattrape, en disant que Joseph est furieux, que le pharaon est furieux, parce qu'ils ont emporté l'or, ils ont emporté tout l'argent avec eux. On visite les sacs, et c'est le sac du Benjamin. Alors à ce moment-là, on voit l'attitude de Ruben et l'attitude de tous. À cause de la douleur de leur père, voyez le point de vue de la paternité, c'est très très important pour notre contact avec Israël. C'est à cause de la souffrance qu'aurait leur père, il en mourrait. S'il ne revenait pas avec le petit Benjamin. C'est la fin du livre de la Genèse. Lisez ça. Il faut avoir lu toute la Genèse. C'est un livre fondamental. La Genèse, l'évangile de Jean, ça se tient. L'alpha et l'oméga. Et ça se tient merveilleusement. On ne peut pas comprendre l'un sans comprendre l'autre. Profondément. Alors on voit à ce moment-là le cœur des frères de Joseph qui ont complètement changé. Ils sont prêts en prison à la place du Benjamin. Parce qu'ils ne veulent pas que le Benjamin aille en prison. Et alors Joseph, devant cela, se dévoile. Quand ils voient que le cœur de leur frère. Alors, il faut transposer tout ça. C'est dit d'une manière, c'est une histoire réelle et en même temps midrash. C'est une parabole qui exprime quelque chose de beaucoup plus grand. L'Église, c'est les Benjamins. Pourquoi le Père aime-t-il tant l'Église? C'est que Joseph et le Benjamin ont la même mère, Rachel, que Jacob a aimé. C'est le seul endroit dans l'Écriture où on montre ce que c'est que le coup de foudre. Ça existe, l'Écriture nous le montre. Jacob a été séduit, mais d'une séduction prodigieuse, quand il a vu le visage de Rachel. C'était bien plus qu'une grecque. Quelque chose d'extraordinaire. Alors vous voyez, le Père nous aime d'un amour de tendresse parce que nous avons la même mère que Jésus. Nous sommes nés de la même mère. Et c'est pour ça qu'il y a un lien unique. Et ça fait comprendre le mystère de Marie dans le gouvernement divin. Faire qu'on ait la même mère que Jésus. Vous voyez, si on prend tout ce patrimoine de la révélation, qui est notre patrimoine, on comprend l'amour du Père pour nous et le poids de la parole du Christ quand il dit à Jean, voilà ta mère. Et quand il dit à chacun d'entre nous, voilà ta mère. Alors voyez la place aussi du Benjamin. Est-ce qu'ils traiteront le Benjamin comme ils ont traité Joseph? Il y a deux épreuves. Et là, il y a deux épreuves. Il y a la première épreuve où les 10 frères de Joseph se sont conduits de la manière la plus basse qui soit, sauf Ruben. Si Ruben n'avait pas été là, il serait mort. Vendre leurs frères aux Égyptiens. Après avoir voulu le mettre dans le puits. Et ils sont tous les fils de Jacob. Et Jacob ne les a pas rejetés. Ils sont toujours ses fils. Et Joseph veut savoir s'ils vont traiter le Benjamin de la même façon. Seconde épreuve. Ces deux épreuves, c'est peut-être là, vous voyez, la théologie des épreuves, où on aurait la clé. Parce que c'est l'épreuve par rapport au peuple d'Israël. Le peuple d'Israël connaît, a connu une épreuve. Et c'est les grands prêtres, c'est pas le peuple, c'est les grands prêtres qui, par jalousie, ont voulu que Jésus soit crucifié. Et je crois que la seconde épreuve, elle est actuelle. C'est le peuple d'Israël face à l'Église. D'où notre responsabilité. Quand on sait que quelqu'un est à l'épreuve, on doit l'aimer doublement. Parce qu'il est fragile dans l'épreuve. Il faut y penser à ça. Je ne veux pas plus loin. Je voudrais maintenant terminer ces quelques jours en montrant l'enjeu de la lutte et des tentations. Ça nous est donné dans l'Apocalypse. L'Apocalypse, c'est le livre par excellence des luttes. Et ce livre par excellence de la révélation. Révélation de Jésus-Christ. Toutes les révélations de Jésus-Christ dans les évangiles. On ne dit pas que les évangiles, c'est les révélations de Jésus-Christ. Tandis qu'on dit que Apocalypse, c'est la révélation de Jésus-Christ. C'est extrêmement curieux. On aurait beaucoup à dire là-dessus. C'est la révélation des révélations. C'est la révélation à son sommet. Et je crois que c'est vrai. Dans cette révélation à son sommet, il y aura le petit livre qu'il faut manger et qui est amer et qui est doux, doux au palais et amer aux entrailles. Chapitre 11. Chapitre 10 et 11. C'est le chapitre 10 dans l'Apocalypse. Et je crois que le petit livre, c'est l'évangile de Jean. Oui, l'Apocalypse contient le petit livre de Jean. Parce que ce petit livre est donné par Dieu à Jean. Ça a une signification quand même, ça. Je sais très bien qu'on discute pour savoir si l'évangile de Jean a été écrit en dernier lieu ou si l'évangile de Jean a été écrit tout à fait au début, premier évangile. On aura des découvertes comme pour l'évangile de Saint-Marc, sans doute. Un jour, Freud. C'est possible. Dieu nous donne des choses très étonnantes dans ce siècle pour nous montrer que, attention, conclusion scientifique. L'évangile de Jean, selon toute la tradition, c'est l'étendue du vieillard. Jean n'avait aucune envie d'écrire un évangile. J'entends quand le père finit me disant « Jamais je n'écrirai sur Marthe. » J'étais trop intime avec elle. Je crois que Jean, dans le fond de son cœur, ne pouvait pas écrire sur Jésus. Il était trop intime, parce que Jésus lui avait donné Marie. Et Marie, c'est l'évangile silencieux de Jésus. C'est l'évangile du cœur blessé. Et Marie a tout donné à Jean. Et Marie nous donne tout, si nous le voulons. Si nous lui demandons. Je crois que Jean n'avait aucune envie d'écrire un évangile. Jean a sûrement rencontré Luc. Il a beaucoup, beaucoup communiqué à Luc. On rêverait. On le verra au ciel. C'est un rêve qui se réalisera au ciel. Au rêve, au ciel, je verrai dans l'évangile de Luc tout ce que Luc a tenu de Jean. Et je regardais ça avec beaucoup de curiosité. Extrêmement intéressant. Vous savez, on aura un crayon lumineux et on pourra écrire sur l'évangile de Luc, tracer tout ce qu'il a tenu de Jean. Parce que selon les mœurs du temps, on ne le met pas. Et Luc aurait pu mettre note. Ah, ça, en note. Jean me l'a dit. Il le tenait de Marie. Non. La sagesse se communique sans envie. Et Jean avait des trésors. Il a tout communiqué, tout ce qu'il pouvait communiquer. Il a communiqué à Luc. Et c'est facile. Hein? Les très bons exégètes de Jean n'hésitent pas à le dire. Quand je mettais le père Braun sur cette piste, c'est extrêmement intéressant. Le bon père Braun, belge, que j'avais comme collègue à Fribourg, qui était professeur d'exégète à l'université. Et Jean croyait que c'était terminé. Quand on a Luc, merveilleux, il a dicté à Luc des quantités sur tout ce que Luc lui demandait. Il gardait pour lui des secrets, et des très grands secrets. Et le vieux Jean a eu la secousse de Patmos. Vous lisez l'Apocalypse, vous êtes quand même secoué. Vous n'analysez pas trop le soir. Lisez C'est là près du tabernacle. Pour que vous compreniez que l'Apocalypse, c'est un livre de miséricorde et d'amour et de lumière. C'est pas du tout le livre de la colère de Dieu. Au contraire, c'est Dieu qui vient nous soulager des colères du démon. Et au chapitre 11, entre sixième trompette et septième trompette, donc le moment des luttes à leur paroxysme, il y a un secours de Dieu très particulier, le petit livre. Le petit livre donné à Jean. Et Jean doit le manger. Vous savez, il n'y a que les enfants qui mangent les livres. J'ai jamais vu un érudit manger un livre. Il aimerait mieux le garder dans un coffre-fort. Tandis qu'un gosse, quand le père philosophe va le dos tourné, il regarde le livre du papa. Joyeuse, elle procure une joie intense, puisque c'est une parole vivante qui nous unit à sa source, qui est l'Esprit Saint, qui est le cœur de Jésus, qui est le cœur de Marie, reine des prophètes, qui est Saint-Luc, qui est Marc, Matthieu, tous les prophètes. Et qui en même temps est amère aux entrailles, puisque c'est le lien avec la croix. Je crois que ce petit livre donné à Jean, c'est comme un ordre impératif d'écrire pour ceux qui vivront l'Apocalypse. Vous comprenez, Jean est le dernier de toute cette génération. Témoins vivants du Christ, des apôtres. C'est pas commode d'être le dernier d'une génération. Cette génération ne passera pas avant que revienne le Fils de Dieu. Comment comprendre ça? Jean a dû le comprendre, la génération des 12. Et quand c'est le dernier, alors, un nouveau regard sur cette génération, c'est l'Église. Pour l'Église, il est un témoin unique. Et je crois qu'à partir de ce petit livre, on comprend alors comment Jean devait donner le vrai petit livre, qui est son évangile, pour ceux qui auront à lutter jusqu'au bout les grands combats eschatologiques. L'Apocalypse nous montre ces combats d'une manière symbolique, très difficile à comprendre. Je suis tout à fait d'accord. Mais on peut lire un livre comme l'Apocalypse en comprenant peu de choses, mais le peu de choses qu'on comprend est très étonnant. Tellement c'est lumineux, tellement c'est grand. Et si vous lisez chaque année l'Apocalypse, d'un certain temps, quand vous aurez 75 ans, vous l'aurez lu pas mal. Et vous commencez à le comprendre. Mais il faut le lire en demandant à l'Esprit Saint, tout le temps, tout le temps. Parce que quand vous lisez le livre du Père Allot sur l'Apocalypse, c'est très intéressant, point de vue érudition, mais ça ne vous fait pas entrer dedans. C'est un livre tellement énigmatique et tellement profond. Et c'est nécessaire pour nous, pour comprendre les grandes luttes de l'Église. No guilt. Alors, qu'est-ce qu'on voit dans l'Apocalypse? Je ne vais pas vous résumer. Hein. On nous donne les sept sceaux, qui est le grand mystère de la prédestination. Le regard du Père sur nous, à travers la blessure de l'agneau. On est prédestiné à travers la blessure de l'agneau. C'est dit symboliquement. Il faut le comprendre. Puis, le mystère des trompettes, l'exécution. Les sceaux, c'est déjà pas commun à comprendre. L'ouverture des sceaux. Seul l'agneau peut enlever les sceaux. Donc seul Jésus nous fait comprendre et entrer dans le mystère de la prédestination. Puis le mystère des trompettes. Sept trompettes. Toujours sept, sept. Hein. Ça, c'est un repère. Les chiffres, c'est ce qu'il y a de plus clair. C'est l'exécution. Et dans l'exécution, c'est extrêmement difficile de savoir est-ce que ça vient de Dieu ? Est-ce que ça vient du démon ? Dieu se sert du démon. Il ne faut jamais l'oublier. Et toutes les permissions de Dieu sont des permissions que Dieu accorde parce qu'il a toujours le dernier mot. Si nous le voulons. Si nous le voulons. Autrement, Dieu n'irait pas si loin dans ses permissions. Et plus Dieu va loin dans les permissions, plus nous comprenons que la miséricorde de Dieu est première et dernière dans le gouvernement divin. Et que tout est commandé par cette miséricorde qui tient tout. C'est très apaisant. Puis, il y a les signes. Les signes, alors, les exégètes d'aujourd'hui, même les très bons, comme le père Hostie, j'aime beaucoup. J'ai encore connu le père Hostie. C'était un magnifique paysan de la parole de Dieu. Un laboureur de la parole de Dieu. Étonnant. Vous savez, pour traduire toute la Bible, ça manque quelque chose. C'était merveilleux. Les conversations qu'on voit avec le père Hostie. C'était étonnant. Très différent du père Feuillet. Je dis, il avançait comme un laboureur, avec un respect, un amour de la parole de Dieu. Et alors, tous disent, sept signes. Mais c'est faux, il n'y a pas sept signes. On fait ça, vous voyez, parce qu'on dit sept, 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 sept. Non, c'est pas du tout les signes, c'est tout à fait différent. Il y a certaines choses qui impliquent sept. Puis d'autres qui n'impliquent pas du tout sept. Il y a trois signes. Pourquoi trois ? Pourquoi sept ? Ça, c'est intéressant. Très bonne question à poser au Saint-Esprit. Saint-Esprit aime beaucoup qu'on l'interroge. Parce qu'à ce moment-là, il peut nous éclairer. Et Saint-Esprit aime de nous éclairer. Croyez-le. Il faut lui demander avec petitesse et beaucoup d'amour. Puis frapper, frapper, frapper. Les signes, c'est pour nous donner l'intelligence du mystère des luttes. Je crois que c'est ça. Oui, c'est tout à fait autre chose. C'est dans l'immanence des luttes qu'on nous donne des signes. Alors il y a les deux premiers signes qu'on connaît bien, puis le dernier après. Il vient beaucoup après. Puis, il y a les sept coupes, on retrouve. Ça, c'est la fin. Alors, c'est une division très simple, vous voyez, d'un gouvernement. Un gouvernement, le gouvernement de l'Église, est un gouvernement familial. On est gouverné par un père. Et on forme une grande famille. Et cette famille est le peuple de Dieu. C'est pour ça qu'il y a des lois, et puis il y a au-delà de la loi. au-delà. Il y a la volonté du Père. L'Ancien Testament, la loi, est écrite sur de la pierre. Et les volontés mystérieuses du Père sur nous, c'est à travers le cœur blessé de l'agneau. Très important de comprendre que la loi existe toujours, pas un iota de la loi ne doit disparaître. Mais il y a un dépassement. Et ce dépassement, il se fait dans l'amour. On touche le mystère du bon plaisir du Père. Quomodo placeat Deo. Comment plaire à Dieu? Quand j'obéis, c'est pour éviter les colères. Quand je cherche à faire le bon plaisir du Père, c'est pas pour éviter sa colère. C'est pour lui donner un peu de joie. C'est pour l'embrasser. C'est pour lui dire qu'on l'aime. C'est pour rester proche de lui. Tout à fait différent. Mais les deux registres, toujours les deux registres. Saint Thomas nous le dit, hein. Il y a les deux registres. Il y a le registre de la prudence et le registre des dons du Saint-Esprit. On mène sa vie chrétienne au niveau de la prudence. Très bien. Évitez les colères de Dieu. On mène sa vie chrétienne au niveau des dons du Saint-Esprit. Il y a une lecture de l'Écriture au niveau de la science. Très bien. Excellent. L'Église ne condamne pas du tout. Et puis une lecture de l'Écriture au niveau des dons du Saint-Esprit, en tout petit enfant, où on lit tout de l'intérieur. Le supérieur ne méprise pas l'inférieur. Mais il ne faut pas que l'inférieur supprime le supérieur. Il ne faut pas qu'au nom de la justice, on ne veut pas la miséricorde. Il ne faut pas qu'au nom de la science, on supprime le don d'intelligence et de sagesse. Et ça, tout l'Apocalypse nous le montre. C'est ça qui est extraordinaire. Et là, on voit bien deux espèces de luttes. Au niveau de la prudence, il faut lutter pour devenir vertueux. Vivre, il faut lutter. Pour ne pas se laisser aller avaler le pot de confiture un soir. C'est déjà vertueux de laisser pour le lendemain. C'est le premier degré de la vertu. Laisser le pot de confiture pour le lendemain, à moitié plein. C'est déjà quelque chose. Troisième degré, c'est de dire peut-être qu'un autre pourra le prendre entre deux. Et ainsi de suite. Vous voyez, on fait des deux. On lutte pour être vertueux. Puis la lutte est beaucoup plus intime au niveau des dons du Saint-Esprit. Les épreuves d'Abraham, d'Isaac et de Jacob ne se comprennent qu'au niveau des dons du Saint-Esprit. Alors, les signes nous montrent l'enjeu des luttes. C'est ça qui est si important. Comment une telle lutte? Pourquoi cette lutte incessante? Je mettrai une inimitié entre ta descendance et la descendance de la femme. Et la lutte continue. Pourquoi cette lutte? Pourquoi Dieu laisse-t-il tant de pouvoir au démon, de telles possibilités? Pourquoi tout ça? Deux raisons, comme toujours. Avant la faute, pour éprouver Ève et l'empêcher de tomber dans l'orgueil. C'est C'est pour ça que Dieu a permis au serpent de s'approcher d'Ève. C'était une permission de Dieu. Et Dieu a permis cela pour que Ève s'humilie et aille plus loin. La grâce chrétienne va plus loin que la grâce de justice originelle. Oh, Père chrétienne, pourquoi tant de luttes? Jésus aurait pu, dans le mystère de l'agonie, obtenir du Père qui soit le seul à lutter. Et qu'après lui, il n'y ait plus de lutte. Il n'y ait plus de lutte. Il y a un retour au paradis terrestre. Je crois que c'est la grande prière de l'agonie. Que ce calice, que cette coupe s'éloigne. Cette coupe, c'est Marie au pied de la croix qui fait partie essentielle de la coupe de la croix. Jésus sait qu'il aurait pu être unique dans ce grand combat. Au niveau de la justice, il faisait une œuvre parfaite de réparation, de satisfaction. Mais le Père veut que la croix soit une œuvre d'amour et de miséricorde. Alors il veut la surabondance. Il veut que Marie ne soit pas seulement la petite enfant entièrement transformée par le Christ, qui comme une petite enfant reçoit tout gratuitement. Le Père veut que Marie soit une petite enfant et l'aide, l'épouse du cœur de Jésus, du cœur sacerdotal du Christ. Et donc que Marie coopère à l'œuvre de la croix dans le mystère de la compassion. Et avec Marie, c'est toute l'Église et c'est nous. Il ne faut jamais oublier que Jésus a demandé au Père que Marie soit épargnée, que l'Église soit épargnée, que nous soyons épargnés, et qu'il acceptait de porter seul les conséquences du péché. Et le Père a voulu que l'œuvre de la croix soit pas seulement l'œuvre de Jésus, mais l'œuvre de Jésus avec Marie, avec Jean, avec l'Église, avec chacun d'entre nous, pour que notre intimité avec Jésus soit plus grande, pour que Jésus puisse nous communiquer plus d'amour. À travers toutes ces luttes, si nous vivons ces luttes dans un amour divin, en suppliant l'Esprit Saint nous aider, en suppliant Jésus nous aider, en suppliant Marie d'être là, la victoire divine de l'amour dans ces luttes permet une unité avec Jésus, unique. Et donc permet à l'amour d'aller beaucoup plus loin. C'est, je crois, cela que nous devons comprendre quand nous comprenons, quand nous essayons de comprendre la signification de ces luttes. C'est pour aller plus loin dans la communication de l'amour. Les permissions du Père de Jésus à l'égard du démon. La volonté du Père pour que Marie soit présente à la croix et que nous soyons présents à la croix du Christ. C'est pour que nous allions plus loin dans l'amour. C'est pour ça que c'est si important de comprendre le sens de ces luttes. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen.